Bien, c'est agréable, on entend les oiseaux.
Super.
Alors, on va donc, je résume qu'est-ce que nous avons vu là depuis plusieurs mois. Nous avons vu donc la nomination du premier roi d'Israël, le roi Shaoul de la tribu de Binyamin. Et comme nous avons vu, on a développé longuement les qualités remarquables de ce jeune Shaoul qui était particulièrement pudique, particulièrement simple, et qui avait des qualités donc d'intériorité, de noblesse et d'intériorité. Voilà. On a développé longuement ça. Il a été nommé d'abord, il a été nommé par le prophète dans la grande intimité. Ensuite, deuxième étape, devant l'ensemble du peuple juif, il y a eu le tirage au sort. Et tout le monde a vu que c'est lui qui a été nommé par Dieu. Et troisième étape, que nous avons vue longuement, troisième étape, il a sauvé le peuple juif dans la bataille de Yavesh-Gilad. Il y avait les Ammonéens qui faisaient le siège d'une petite ville frontalière. Et Shaoul a mobilisé tout le peuple et a sauvé tout le peuple. Voilà, ça c'est très très important. Alors, on saute quelques chapitres parce que c'est un travail de longue haleine et on peut pas tout faire. Et nous allons maintenant voir un autre passage absolument central, c'est que la royauté de Shaoul va durer très peu de temps parce que peu de temps après son triomphe, il va fauter. Alors, on va voir quelle va être sa faute, qu'est-ce qu'il a fait. Et pour bien apprécier ce passage, c'est un des passages les plus bizarres de toute la Torah. Et donc, la lecture simple des versets, on va faire ça et on comprend rien. Alors, on va faire plusieurs travaux. Je vous dis en toute simplicité, des livres entiers ont été écrits sur ce qu'on va voir. Donc on va essayer d'y aller doucement et surtout travailler le texte. Hein, c'est ça ce que j'essaie de faire avec vous. Donc je vous passe des photocopies du chapitre Yud-Dalet, la fin du chapitre Yud-Dalet. Et ensuite on passera au cœur du sujet. Mais le fin du chapitre Yud-Dalet est une genre de conclusion de ce que nous avons vu. Je vous passe des photocopies. Alors, j'ai envoyé par mail les références. Vous avez préparé un peu? Quelqu'un a préparé? Je sais pas, je tousse tout d'un coup. Comment?
J'ai déménagé, j'ai une excuse.
Ah oui? Où est-ce que tu habites maintenant? Ah d'accord, ok.
J'ai pas encore. Ça sera rien d'autre.
Ah, dans le même quartier. Alors. Donc regardez, l'intérêt en tout cas de cette étude que je fais avec vous, nous faisons ensemble, c'est de faire le texte, de traduire les mots. C'est ça l'intérêt, je trouve, hein. En tout cas, c'est ce qui me motive de faire ça avec vous. Alors, dans cette feuille, dans le chapitre Yud-Dalet, verset Memzaïn. Donc on a vu, il a gagné la bataille contre les gens de Yavesh Moab, etc. Yavesh Gilad. Ensuite, il a fait d'autres batailles. Et le verset Memzaïn. Veshaoul lakad amloucha al Israël. C'est bon, vous voyez le verset? Non? Ve Shaul lakad amloucha al Israël, vaylachem saviv bechol oivav, bemoav ou bivne Amon ou beedom ou bemalche tsova ou bepelishtim ou bechol asher ifne yarshia. Alors, Shaul lakad. Shaul a conquis. L'Akkad, ça veut dire a conquis la royauté sur Israël. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que Shaul a pris la royauté sur Israël. C'est-à-dire, il n'a pas pris pour lui, il l'a pris pour Israël. C'est-à-dire que il a fait qu'il y ait une royauté sur Israël. Il a conquis la royauté sur Israël. Vaylachem saviv berol oivav. Qui c'est qui me traduit?
Il a combattu tous ses ennemis.
Tous ses
ennemis.
Tous ses ennemis, saviv autour. Vaylachem saviv, il a fait la guerre autour, dans tous ses ennemis. Bemoav, donc Moav. Dans les Bnei Amon, les fils de Amon, Be'edom. Edom, c'est quoi Edom?
C'est un peuple.
Oui, mais quel peuple?
Un ennemi de Ramsès.
Comment? Non, non, Pitom, Pitom, Pitom.
C'est un ennemi.
Comme dit, j'ai un fils de 5 ans, il dit Pitom et Marcel. Pas Pitom et Ramsès, il dit Marcel. Non. C'est quoi Edom?
La ville des saints.
Oui, très bien. Edom, c'est les descendants d'Ésaü, hein, de ça. Voilà. Il a fait la guerre dans les fils d'Amon et dans Edom. Edom, c'est les descendants d'Ésaü. Ou Bemalchet Tsova. C'est quoi Malchet Tsova? Alors, je suis désolé. Ça ne vous intéresse pas tellement, mais je le dis quand même. Mon épouse est revenue la semaine dernière d'une semaine en Israël. Elle m'a ramené 1 kilo de bonbons pour mes cours. Et je les ai oubliés. Ah, c'est, ça aurait été stimulant. Alors c'est quoi Malchet Sova?
Les rois de guerre.
Les
rois de guerre, non.
Les rois de Tsova.
Tsova, c'est les bêtes, non? Tseva, c'est pas les...
Tseva, c'est la couleur. Non, mais regardez, Tsova, non, ça veut dire... C'est un lieu, hein. Alors, il y a l'Arami, il y a Aram Tsova. Aram Tsova, c'est la région de Alep. Vous savez où c'est la région de Alep? En Syrie. Ça s'appelle l'Arami, c'est-à-dire la Syrie. En langage biblique, ça s'appelle l'Arami. Il y a Souria aussi, Souria ou l'Arami. Et une partie de la Syrie, ça s'appelle Aram Tsova. Donc c'est la région d'Alep. Alep, c'est, si je ne m'abuse, la deuxième grande ville de Syrie, où vous savez qu'il y avait toujours une grande communauté juive là-bas. Bon. Donc il a fait la guerre contre les rois de Tsova, donc c'est la région d'Alep. Ouba Pilishtim, il a fait la guerre contre les Philistins. Ou Bechol Asher Ifne Yarshia. Ça veut dire quoi?
Tout celui qui lui faisait face, non?
Alors, dans tout ce qu'il se tourne, comment? Dans tout ce dans tout ce vers quoi il se tournait, Yarchia, alors ici c'est un terme bizarre, Yarchia ça veut dire dans tout ce vers quoi il se tournait, comment ? Racha, ça veut dire mauvais, racha, hein ? Ça veut dire mauvais. Alors, ça veut dire dans le il y a un commentaire en bas, Metsuda Tsion, qui explique que Yarchia Yacharid Ibalbel, c'est dans tout ce quoi il se tournait, il terrorisait. C'est-à-dire, c'est devenu Shaoul, le petit Shaoul que nous avons vu. Le petit Shaoul que nous avons vu très pudique dans son coin, là maintenant c'est devenu un grand homme de guerre qui fait des guerres dans tout autour de la terre d'Israël, et partout il se tourne, Yarchia, il condamne, ça veut dire c'est une région condamnée, là où, c'est, si vous voulez, comme on dit aujourd'hui, enfin on disait, que partout où Attila passe, l'herbe ne repousse pas, ben c'est ça ce que ça veut dire. Partout où il passe, il terrorise. C'est mauvais, quoi. C'est mauvais. Alors, le Talmud relève que plus loin, on verra que David, Bechol Asherifne Yatzliar. Il y a quelque chose de particulier quand même, parce que partout où il passe, il terrorise. C'est bien, parce que ici c'est bien. On voit grâce à ça, la royauté est installée dans le peuple juif. Mais c'est un terme un peu ambigu quand même. Racha, il rend racha. Il rend mauvais. C'est ambigu. C'est ambigu. Verset Memchet. Vayas chayil, vayar et amalek, vayas Vayatzel et Israël miyam miyad shoseu. Vayas Chayil, il a fait gloire. Chayil, c'est l'armée, c'est aussi puissant. Eshet Chayil, il a fait des choses puissantes. Vayas Chayil, Vayar et Amalek, il a frappé la Malécite. Vayatzel Israël miyad shoseu. Yatzel, il a sauvé Israël de la main de son oppresseur, chaussé de celui qui veut le mordre. Ouais, celui, je pense que c'est ça. Hein, il a sauvé Israël de ses oppresseurs. Vayu bené Shaul, Yonatan, ve Ishvi, ou Malkishua, ve Shem Shte Benotav, Shem Abechira Merav, ve Shem Aktana Michal. Les fils de Shaul, c'était Yonatan, Ishvi et Malkishua. Le nom de ces deux filles, le nom de l'aînée, c'est Merav. Et le nom de la petite, c'est Michal. Voilà. Veshem Eshet Shaul Achinoam bat Achimaatz. Veshem Sar Tsevao Aviner Ben Ner Dod Shaul. Le nom de la femme de Shaul, c'est Achinoam, fille de Achimaatz. Le nom de son général d'armée, Aviner Ben Ner. Enfin, Aviner Ben Ner, ailleurs, on l'appelle Avner. Hein? Avner, ce qui est le grand général de qui, en vérité, est son cousin, puisque c'est le fils de Ner, le tonton de Shaoul. Alors, on va faire le commentaire de Rashi. Dans la photocopie que je vous ai passée, y a le commentaire de Rashi en haut, à gauche de cette colonne. Aviner ben Ner. Avner, fils de Ner. Ner, ça veut dire quoi ?
La lumière.
Oui, plutôt la lampe. La lampe, hein? Ner, c'est la lampe. Donc Avner, donc ça veut dire que Avner était le cousin, de Shaoul, hein? Son général en chef, c'était son cousin. Vener aya dod Shaoul, Ner, c'était le tonton de Shaoul, arrive chez le Kish, qui était le frère de Kish. Kish, on dit, c'était le père de Shaoul, n'est-ce pas? Ou Shneem bené Aviel. Et les deux, c'est-à-dire Ner et Kish, étaient les fils de Aviel. Donc c'était le père de Shaoul, c'est Kish, son grand-père, c'est Aviel. Vegam Aviel nikra Ner bidivra yamim. Et Aviel était appelé, est appelé Ner dans Divrei Yamim. C'est quoi Divrei Yamim? Oui, c'est quoi les chroniques?
C'est les délivrés qui racontent ce qui se passe dans un royaume. Quoi, c'est un...
Voilà, donc Divrei Yamim, il y a un livre dans le Tanakh, dans les hagiographes, qui s'appelle Divrei Yamim, c'est-à-dire que qui rapporte toutes les générations, voilà, tout ce qui s'est passé au fil des générations, depuis la création du monde jusqu'à la construction du deuxième temple. Hein. Jusqu'à la construction du deuxième temple. Et là-bas, le père de Kish est appelé Ner. Donc on ne comprend pas bien. Ici, c'est le frère de Kish. C'est le tonton de Shaoul est appelé Ner, mais quand on reprend les généalogies dans le livre d'Ivrei Yamim, on dit que le père de Kish est appelé Ner. Alors, comment, or ailleurs, on dit qu'il s'appelle Aviel. Alors, on s'appelle Aviel, il s'appelle Ner, qu'est-ce qu'il s'appelle? Vegam Aviel nikra Ner b'Divrei Yamim, dans les chroniques, pourquoi? Shaya madlik nerot le rabim bemavot a afelim. En vérité, Ner, c'est pas le vrai nom, c'est un surnom, parce que il allumait des lampes dans les ruelles obscures. Parce que, regardez, nous, on se rend pas compte, il y a l'électricité, il y a des lampadaires, etc. Et ben, dans la famille, il se souciait de mettre des lampes à huile dans les ruelles obscures pour que les gens ne se cassent pas la figure la nuit. Il se préoccupait de ça.
Et alors, il faut le prendre au sens propre ou au sens figuré? Il n'y a pas une image derrière ça.
Attends, d'abord le restons propres. D'abord, c'est quoi le sens propre? Après, on va voir. Qu'est-ce que ça, c'est, qu'est-ce que les Chachamim veulent nous dire ici?
Ranimer la flamme des gens se perdus.
Ben voilà, le sens propre, vous venez de le dire, il allumait les lampes dans les rues.
Oui, non, d'accord, mais là vous allez tout de suite trop loin. Non, je ne sais pas, peut-être on va y aller. Mais d'abord, gardons déjà le sens simple. Le grand-père et le tonton, dans la famille, ils allumaient des lampes dans les ruelles obscures. Okay. Qu'est-ce qu'on s'en fout? D'accord? D'abord, pourquoi? C'est-à-dire, on est obligé de dire qu'à un moment, que le terme nerf n'est pas le vrai nom, mais c'est un surnom. C'est ça ce que Rashi nous dit. Quand on dit que le papa d'Avner s'appelle Ner, on va dans la famille, il y a plusieurs, il s'appelle Ner. Et le papa, le fils, s'appelle Ner. C'est bizarre. Donc il faut dire que ce n'est pas le nom, que c'est un surnom. Pourquoi? Parce que dans la famille, ils avaient pris sur eux d'allumer des lampes, des bougies. À l'époque, c'était des lampes à huile. Dans les ruelles obscures.
C'est un homme qui se préoccupe des autres, du bien commun, du bien public.
Oui, des gens. Je pense que c'est important, ça, déjà. avant d'aller plus loin. C'est ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est qu'ils se préoccupaient du bien-être de leurs contemporains, mais au niveau simple, très très simple, ça c'est déjà très très important, quoi. Parce que nous, on ne se rend pas compte, on a l'électricité, mais quand il y a les lampadaires partout en ville, mais ça peut être embêtant. Le soir, ça peut être très embêtant, je ne sais pas, quand tu es dans l'obscurité, tu peux être un petit peu angoissé, tu peux premièrement te casser la figure, il y a des gangsters qui t'attendent, ça peut être des coupes-gorges, ouais, donc c'est vraiment embêtant. Alors il se préoccupait d'aider les gens. Maintenant, on peut aider les gens de 36 000 manières. Pourquoi il s'occupait de ça précisément? C'est aussi très intéressant. Pourquoi il s'occupait de ça? Mais je retiens ce que dit Sophie, je pense au niveau premier, qui est très important, parce qu'ils ont eu le mérite d'avoir un petit-fils et un petit-fils donc roi, et Avner, qui était le grand général en chef, c'était, si vous voulez, c'est la cheville ouvrière du triomphe de Shaoul. Quand il faisait la guerre, c'est le général qui faisait la guerre. Donc, finalement, se préoccuper du bien-être simple des contemporains, ça a eu un impact très important sur la famille, quoi. Je pense que c'est ça, parce que en lecture première, tu te dis, c'est Kadhafi, quoi. Il met son cousin, il met son truc, son machin. Alors, Rachi répond dans une certaine mesure que non, c'est un mérite, que dans la famille, il se préoccupait du peuple, quoi. C'est pas seulement, si vous voulez, il y en a, ils voient à la télé, oui, moi je cherche le bien du peuple, tout ça, oui, et son slogan au présidentiel, c'est « prenez le pouvoir ». Mais « votez pour vous ». Non, parce que nous, dans le 20e, c'est une terre de notre cher Mélenchon, n'est-ce pas? Alors, votez pour vous. Mais on n'en sait rien. Est-ce que vraiment, il s'intéresse aux gens? Est-ce qu'il se préoccupe des gens? Non, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu le même. Et eux, là, on voit que dans la famille, ils s'occupaient du bien-être des gens. Ça, c'est très, très important. Très important. Voilà. Jessie, vous avez un texte?
Je suis avec Laetitia.
Ah, d'accord. Bon.
Il y en a ici.
Vekish, Avi Shaoul, Vener, Avi Avner, Ben Aviel. Et justement, le verset nous dit que Kish, le père de Shaoul, et Ner, le père d'Avner, sont des fils de Aviel. Et justement, c'est ce que dit Rashi, que ailleurs, on nous dit que Aviel est appelé Ner lui-même. Donc on comprend que Ner, quand on parle ici de Ner, c'est un surnom. On l'appelait Lampe. Bon, c'est vrai, en français, Lampe, ça fait pas tellement romantique, mais bon, Ner, ça fait plus joli. Verset Nounbet. Vatei amilchama chazaka al pelishtim kol yeme Shaoul. וראה שאול כל איש גיבור וכל בן חייל ויספהו אליו. ותהי, כי מתחדוי, זה ורסי נון בית, s'il vous plaît.
Il y a eu une guerre très forte contre les Philistins, tous les jours de Shaoul. Et Ra'a Shaoul, et il a appelé Shaoul.
Non, Ra, c'est voir.
Ah, il a vu Shaoul, Kol Ish Gibor, tout homme fort, Gibor, vous comprenez.
Oui, oui, hein? Fort.
Et tout Ben Hai, tout homme valeureux.
Oui.
Et il a rajouté à lui.
Oui, ça veut dire.
Il a pris dans ses armées.
C'est ça. Donc, vous savez, il voyait dans le peuple juif, dès qu'il y avait quelqu'un qui était fort, et Israël, Ben Chaïl, le Metsudat Tzion, explique quelqu'un qui s'y connaît dans la stratégie, dans la guerre, eh bien, il enrôlait avec lui, il recrutait tous ceux qui... Donc on voit qu'il y a une dimension dans le roi absolument guerrière. D'ailleurs, c'est très important que Maïmonide, quand il fait les lois des rois, il écrit comme ça, « Loi des rois et de leur guerre ». Donc la guerre est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est un grand débat. Un grand débat dans le traité Shabbat. Est-ce que la guerre est une notion consubstantielle de l'être humain ou c'est quelque chose qui doit s'arrêter à un temps? C'est un débat. C'est un débat. Est-ce...
Comment? Ah non, j'avais perdu. C'est où était la discussion?
La discussion, c'est est-ce que la guerre... C'est dur à dire. Hein. En le disant, ça me fait mal à la bouche, là. Mais est-ce que la guerre est quelque chose... Ça fait partie de la réalité humaine, comme d'autres réalités humaines. C'est une réalité. Ou bien, c'est pas bien, quoi. C'est quelque chose qui doit s'arrêter, fondamentalement. C'est un grand débat dans le Talmud. Hein. Un grand débat. Mais.
Là, on ne parle pas du même type de guerre qu'on a aujourd'hui. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui a ordonné de faire la guerre contre tel type d'ennemi, à Shaul.
Où tu vois ça?
Non, mais.
Où tu as vu ça?
On voit l'histoire.
Mais on la voit, là.
On ne le voit pas ici, mais.
Alors, mais.
C'est connu dans l'histoire.
Non mais là, non. Si tu veux, je peux aller facilement dans ton sens. Oui, je peux dire t'as raison et tout va bien. Mais ici, on voit que Shaul, il devient roi, il installe la royauté dans le peuple juif, bon, en sauvant le peuple juif de ceux qui embêtent le peuple juif. Ça, c'est une chose. Mais on voit que là, il n'y a pas seulement ça. On voit qu'il fait des guerres et encore des guerres, Et pas seulement ça, mais sa préoccupation, c'est les meilleurs des jeunes, il les enrôle dans l'armée. Bon, c'est à noter, mais je vous dis, c'est tellement à noter que nous avons étudié, on étudie avec un certain groupe à l'Yeshiva, le traité Shabbat, et c'est sur plusieurs pages, plusieurs dapim dans le Maseret Shabbat, il y a un débat, par exemple, est-ce qu'au temps messianique, il n'y aura plus la guerre? Alors, il y a un avis qui va vous plaire de dire qu'il n'y aura plus la guerre, que l'agneau paissera avec le loup et que les lions mangeront de la paille, ouais, mangeront du foin, tout le monde sera content, ouais, c'est bien, c'est un avis, il y a un avis comme ça, mais il y a un autre avis qui pense que non. Que non, il y aura encore des guerres au temps messianique. Après, post-messianique, il s'entend que ça fait partie de la réalité humaine et que c'est consubstantiel de la réalité humaine. Ça ne me plaît pas, mais je vous le dis. Je veux dire, je vous le dis, c'est un débat. Maintenant, tu as raison que les guerres, qu'est-ce que ça veut dire aussi la guerre? Parce qu'à partir du XXe siècle, les guerres ont été des guerres qui ont pris des dimensions, peut-être, c'est loin de moi d'être historien, mais peut-être que la guerre a pris des proportions absolument terrible. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'il y ait des gens qui se battent. On voit ici, c'est le roi Shaoul, qui était un petit mignon quelques chapitres avant. Très, très mignon. Ouais. Comme un petit agneau. Là, on voit, c'est la terreur. C'est pour ça, si vous voulez, que c'est fondamental de faire le texte. On voit le texte. Bechol HaSherifne Yarchia. Partout où il se tourne, c'est la terreur. C'est le texte. Yarchia, le même Yarchia, c'est... Oh, c'est celui qui hante vos cauchemars. Hein. C'est la traduction. Ok.
Comme par combat.
Comment?
Il est comme par combat.
Qu'est-ce qu'il a fait, Marc Corbin?
Il se met la terreur.
C'est un redoutable
guerrier.
Un redoutable guerrier.
Vous n'avez pas dit qu'il gagnait les guerres à chaque fois? À l'époque de Rabbi Akiva.
Oui.
Il avait dit qu'il gagnait les guerres.
Ah, d'accord.
Excusez-moi, il y a deux questions. Comme monsieur disait, est-ce qu'il y a des guerres commandées par des guerres justes? Et de l'autre côté, ce que vous dites, c'est la guerre essentielle qui appartient au caractère, à l'essence de l'homme.
Voilà, alors là, pour le moment, regardez, il y a deux étapes. Premièrement, ils sauvent Israël de ceux qui les oppriment. Ça, c'est une guerre de mitzvah. Sauver Israël de ceux qui les oppriment, c'est une guerre de mitzvah. Bien. Ensuite, on voit, la guerre est terrible sur les Philistins, tous les jours de Shaoul. Alors, les Philistins, leur spécialité locale, c'est d'embêter Israël. Mais, ok, maintenant, on va voir le gros morceau, chapitre Telva. Alors, on va y aller doucement pour se mettre bien dans le sujet. Chapitre Telva, Pasouk Aleph.
Excusez-moi, Ben Kraïn, c'est valeureux ou c'est dans le sens qu'il craint Dieu?
Valeureux, valeureux.
Parce qu'à la fois, vous avez dit qu'il craint Dieu.
Eshet Haïm.
Oui.
Vous avez dit
que
c'est les soldats.
Oui, non. C'est vrai. Dans le contexte là-bas, ça voulait dire, les gens, on avait vu, Rashi rapportait la traduction de Yonatan Ben Uziel, Kol Ben Chayil, ça voulait dire ceux qui craignent les dieux. Là. Ouais. Très très bien, ça fait plaisir, il y en a qui entendent.
Bah oui. Et là, c'est quoi alors?
Là, ça veut dire les valeureux, mais valeureux de guerre ici. Hein. Voilà. Ça veut dire valeureux, mais valeureux dans quel contexte? Chapitre 5, Pasouk Aleph. Vayomer Shmuel el Shaul. Oti shalar Hashem nimshachacha le meler alamo al Israël. Veata shema l'école d'ivrei Hashem. Shmuel dit à Shaul, moi, l'Éternel m'a envoyé pour te oindre roi sur son peuple, sur Israël. Et maintenant, écoute la voix des paroles de Dieu.
C'est ce que je disais juste avant. Le prophète se fait le porte-parole d'Akadosh Baruch Hu.
D'accord, mais avant, ce n'était pas écrit.
Non, j'ai anticipé un petit peu.
Oui, oui, d'accord, mais un petit peu...
Ah, il ne faut pas.
Non, on essaie d'être rigoureux. On essaie d'être rigoureux. Hein? Moi, j'aime bien qu'on...
Je ne connais pas.
Comment?
Je ne connaissais pas votre manière de...
Ma méthode.
Voilà. Maintenant, je m'adapte.
Voilà. Essayons d'être égaux. Voilà. Quand c'est parlé, Dieu parle. Avant, ce n'était pas écrit. Voilà. Alors, Shmuel dit à Shaoul, moi, l'Éternel m'a envoyé pour te oindre, roi sur son peuple, sur Israël, et maintenant, écoute la voix des paroles de Dieu. Pourquoi maintenant, c'est-à-dire maintenant, fais bien attention, tu vas avoir une mission, the mission. Voilà. Êtes-vous d'accord? Acceptez-vous cette mission? Voilà. La grosse mission. Maintenant, c'est pour ça que tu as été nommé roi. Pourquoi ça? Regardons le verset suivant. Kouamar Hashem Tsovakot. Pakati et Asher Asa Amalek l'Israël. Asher Samlo Baderer Baloto Mimitzraim. Ainsi a dit Hashem Tsovakot, le dieu des armées, j'avoue que je ne sais pas pourquoi parfois on dit Hachem, parfois on dit Hachem Tsebaot. Je ne sais pas pourquoi le dieu Tsebaot, celui Tseba, c'est l'armée, mais c'est celui qui englobe toute réalité. C'est le dieu qui englobe toute réalité. Ainsi a dit le dieu qui englobe toute réalité. Pakadoti et Asher Asa Amalek Israël. Je porte mon attention, je demande des comptes sur ce qu'a fait Amalek à Israël, Asher Samlo, qui s'est mis en chemin, qui s'est entravé en chemin dans sa montée, quand Israël est monté d'Égypte. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'Amalécite ? Amalek. Donc maintenant, Dieu dit, maintenant, on va régler le passif. Il y a un passif que Amalek a fait, maintenant, on encaisse les comptes. Voilà. Qu'est-ce, sur ce que Amalek a fait en chemin. Qu'est-ce qu'a fait Amalek ?
Il a attaqué les
Israël
par derrière.
Le premier peuple.
C'est ça, c'est le premier peuple qui est les enfants d'Israël, montaient d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils rentrent dans le désert, et il y a une peuplade qui n'était pas du tout embêtée par les enfants d'Israël, qui leur tombe dessus. C'est les premiers qui s'attaquent sans intérêt. Et le verset dit « Asher korra baderer » qui t'a refroidi en chemin. Rashi explique là-bas à la fin de Parashat Shoftim à la fin de Parashat Kitetsé, que tout le monde était en pamoison devant les enfants d'Israël, et ce peuple a voulu désacraliser, on pourrait dire, le peuple d'Israël et montrer qu'on peut s'attaquer à Israël. Même si en vérité, la réaction du peuple juif a été forte, qu'ils se sont fait vaincre tout de suite, mais néanmoins, ils ont montré qu'Israël n'est pas inattaquable. On peut s'attaquer à Israël. Et ça, c'est c'est Amalek a fait que le peuple juif, et finalement, ils ont voulu normaliser la dimension d'Israël. Israël, bon, c'est un peuple comme un autre. Aucun problème. Dieu n'est pas là. Oui, Dieu n'est pas là. Dieu n'existe pas. Ils ont voulu montrer que Dieu n'est pas protégé, que Israël n'est pas protégé par Dieu, et donc Hachem a dit on demandera des comptes. Alors c'est pas seulement que Dieu a dit on demandera des comptes. On va voir les versets qui parlent d'Amalek. C'est plus que ça. On va regarder les versets. Il y a deux passages dans la Torah qui parlent d'Amalek. On va les regarder. Premier Arkhumash. Alors, regardez donc dans Shemot, le chapitre 17. Donc dans cette édition, c'est page 117. On va faire les versets pour voir bien le contexte. « Donc chapitre 17, page 117. Voilà. Verset 1. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? Les enfants d'Israël sortent d'Égypte. Ils sortent d'Égypte. Ils traversent la mer Rouge. Donc là, c'est des choses absolument extraordinaires. Les Égyptiens qui, finalement, dans un dernier sursaut, poursuivent les enfants d'Israël et se noient dans la mer Rouge. Les enfants d'Israël chantent le cantique « Ah, Yashir Moshe », etc. Ils rentrent dans le désert, rien à manger, rien à boire. Ils ont la manne, et tout le monde sait qu'il y avait la manne. Voilà. Et verset, chapitre Yud-Zayin, chapitre 17, verset 1. On y va. Voilà, et ben ça va être Sophie qui va bosser là un petit peu. Là. Hein, et toc. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi.
Vaïsé ou col à date. Vene Israël, Mimidbar, Sin, Lemas et M, Al, Pi, Hachem, Vayaranou, Bir, Fidim, Vein, Maïm, Lishtot, Aam.
Voilà. Donc, Vaïsou, Koladad, Bene Israël, Mimidbar, Sin, Lemas et M, ils voyagèrent, ils partirent, toute l'assemblée des enfants d'Israël du désert de Sin, selon leurs étapes, Alpi Hachem, sur la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient accompagnés des nuées, et la nuée s'arrêtait un moment, et là, voilà, on s'arrête là. Voilà. Et la nuée se remontait, on avance. Donc sur la bouche d'Hachem, ils s'arrêtaient, hein, voilà, et ils campèrent au lieu dit Refidim, un endroit qui s'appelle Refidim. Ve'en mayim nishtot ha'am. Il n'y a pas d'eau pour boire le peuple. C'est bizarre d'ailleurs en hébreu comment c'est dit. Hein? En mayim, moi je dirais en mayim la ham nishtot, n'est-ce pas? Le grammaticalement, c'est bizarre.
C'est comme Abaïta, même.
Avec le « et » sophit à la fin.
Aïdia.
Ah. « En maïm nishtot la am ». Le « et » au début. J'ai jamais vu ça. Non, peut-être que c'est... peut-être. Non, parce que le « et » à la fin, c'est la destination. Mais là, c'est le « et » avant. N'est-ce pas?
Pourquoi il était où le puits de Myriam? Il a disparu là.
Comment?
Le puits de Myriam.
Ben, il n'y avait encore pas.
Ah, il n'y avait pas?
Encore pas.
Il n'y avait que la manne?
Je ne sais pas. Il n'y avait manifestement pas d'eau. Vaya rêve à âme. Excusez-moi, mademoiselle Brosane, comment c'est votre prénom?
Elisabeth.
Elisabeth? Alors, à vous maintenant, le 2. Alors, traduisons.
Le peuple s'est rebellé contre
Moshe. Vaya rêve, précisément.
C'est révolté, non? Comme c'est roi rebellé.
Rive. Plutôt se disputer. Se disputer. La rive, c'est une dispute. Ce qui est aussi une expression étonnante. Oui, continuons.
Ils leur ont dit de donner-nous de l'eau. Ils nous l'ont dit. Moshe leur a dit, matériellement, il m'a dit, qu'est-ce qu'on peut disputer en ce moment. Matériellement, ta chaîne.
Alors, Nisayon, c'est une épreuve. Ça vous éprouvez, c'est-à-dire vous dites à Dieu, donne-nous de l'eau, quoi. Tu es capable de nous donner de l'eau, là. T'éprouves, tu mets Dieu dans ses retranchements, quoi.
C'est un peu un sens, comment ça se fait que vous, ici, ça traduirait dans le sens de comment ça se fait que vous éprouvez Dieu,
Qu'est-ce que vous avez à éprouver Dieu? Qu'est-ce que vous avez à éprouver Dieu? Pourquoi vous éprouvez Dieu? Verset suivant, hein, on va y aller. Jessie, à vous de travailler là. Ah. Oui, Vaïsma. Alors, Vaïtsma Sham Aam Lamaim. Le peuple a eu soif là-bas à l'eau. Regardez, c'est étonnant comme c'est exprimé. Vaïtsma Sham Aam Lamaim. Le peuple a eu soif de l'eau. C'est-à-dire avoir soif, en général, on a compris. Hein? Avoir soif, on a soif. Vaïtsma Sham Aam Lamaim. Le peuple a eu soif. Pour l'eau. Donc on voit manifestement que Hachem n'a pas répondu tout de suite. Hachem n'a pas répondu tout de suite. Et c'est là maintenant, et là, ils se sont révoltés. Avant, ils se sont disputés. C'est autre chose. Au début, ils se disputent et maintenant, ils se révoltent contre Moshe. Vayomer, et le peuple a dit, pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour me tuer moi, mes garçons, mon troupeau, dans la soif? Vayitsak Moshe el Hachem les morts, ma esse la amaze, od mead uskalouni. Moshe a hurlé vers Dieu en disant, que vais-je faire à ce peuple-là? Encore un peu, il me lapide. Vayomer Hashem el Moshe avant l'ifne ha'am vekar itra mizikne Israël umatecha asher ikitabo et ayehor kar beyadecha ve'alarta. Dieu dit à Moshe avant l'ifne ha'am passe devant le peuple vekar itra mizikne Israël prends avec toi des sages d'Israël et le bâton avec lequel tu as frappé le Nil, prends-le dans ta main et tu iras, tu avanceras. Et nini omen le fanera sham alatsur bechorev, vikita batsur veyatsur mimeno maim veshata aam vayasken moshe lene zikne Israël. Je me tiens devant toi, là, sur le rocher, au lieu dit chorev, au mont chorev. Tu frapperas dans le rocher. Et sortiront de ce rocher de l'eau, le peuple boira. Moshe a fait ainsi aux yeux des sages d'Israël. Vaikra Hashem Amakom, Massa Omeriva, Al-Riv en Israël, Vanasotam et Hashem les morts, Ayesh Hashem Bekirbenu, Im Ain. Vaikra Shem Amakom, il a appelé le nom de cet endroit Massa ou Meriva. Massa, ce qui veut dire épreuve et dispute, sur le fait de la dispute des enfants d'Israël et sur le fait qu'ils ont éprouvé l'Éternel en disant est-ce que Dieu est en nous, dans notre sein, Imaïn? Donc en vérité, le problème, c'est que. Il se posait la question, est-ce que Dieu est en nous ou est-ce qu'il n'est pas là? C'est-à-dire, il se posait la question, finalement, de la proximité qu'ils ont avec Dieu. Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce que Dieu est dans notre sein ou est-ce qu'il n'est pas?
Il y avait des nuées à ce moment-là.
Comment?
Il y avait des nuées.
Il y avait des nuées. C'est ça, Rashi rapporte sur le verset prochain, sur votre remarque. Regardons le verset prochain. Vayabo Amalek, Vaylachem im Israël Birfit. Il arrive à Amalek et fait la guerre contre Israël. Asoliodi Refidim. Voilà. Alors, Rashi rapporte le Midrash qui dit que c'est comme un enfant qui est sur les épaules de son père et qui dit « Où est-ce qu'il est, papa ?» Alors, il y a un petit chien qui arrive et son père le descend de ses épaules, voilà, pour qu'il ait peur du chien. Et il dit « Papa !» et il reprend dans ses bras. Donc, ils étaient portés par Hachem. Est-ce qu'il y a Dieu en notre sein ou non ? Alors c'est là qu'arrive Amalek.
Oui, il n'arrive pas maintenant par hasard.
Comment ?
Il n'arrive pas maintenant par hasard.
Alors, ça c'est l'expression du hasard. C'est très intéressant que vous disiez ce mot-là, du hasard. Parce que dans Parashat Kitetsé, la deuxième endroit où on reparle d'Amalek dans la Torah, c'est écrit qu'il était tombé dessus par hasard. C'est écrit à Cher Korcha Baderech, qui était tombé. Une Korcha, Rachid donne trois explications. Les trois explications, c'est un langage de par hasard. Et c'est aussi très remarquable que le descendant d'Amalek, qui va faire le décret d'extermination à l'époque de Esther, Pourim, ça veut dire le hasard, la fête du sort. Or, justement, quand on voit les versets, l'expression qui vient, que vous dites, c'est, on voit que ce n'est pas par hasard. Or, lui, il dit, il y a du hasard dans le monde, justement. Le monde est là par hasard. Ça, c'est spécial. C'est très spécial. Alors, c'est quoi cette histoire d'Amalek ? On va faire encore quelques versets. Parce que Amalek, c'est le grand, grand méchant. C'est le grand. Voilà. Si vous voulez, il y a partout dans les sagas, il y a le grand méchant. Oui. J'ai pas lu Harry Potter, mais j'ai l'impression que le grand méchant, c'est Voldemort, non ? Non, c'est pas le grand méchant.
Là, c'est J.R., par exemple.
Comment ?
Pendant
la CJR. Comment ? Voilà, voilà. C'est le très grand méchant. Il y a. Bon, chacun ses références. Oui.
Mais là, Amalek, c'est plus de commune mesure avec tout ce qu'on est en train de citer.
Justement, ce qui est assez important, c'est d'arriver à définir quelle est la. Parce que des méchants, il y a beaucoup des méchants. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Mais ça, c'est le très grand méchant. Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Amalek ? Et on va voir, c'est Amalek, dans une certaine mesure, c'est l'épreuve finale. Tout va bien. Et on va voir dans les versets. Regardez. On va voir les versets. On va voir que la guerre contre Amalek, c'est l'épreuve finale. Et que les versets, quand le prophète Shmuel dit « Maintenant, écoute la voix des paroles de Dieu », c'est-à-dire « Maintenant, les conditions sont placées » pour l'épreuve finale. Et pourquoi ça n'a pas marché ? On va voir. Alors, regardons les versets suivants. Vayavo Amalek Belachem Israël Birfit. Alors, les commentateurs disent que Refidim, il y a un jeu de mots dans le terme Refidim. C'est Rafou Yedehem. C'est un jeu de mots. C'est Rafou Yedehem. qu'il n'avait plus d'énergie. Riphaïon, en hébreu, non, vous connaissez l'expression en hébreu moderne ? Riphaïon, c'est un laisser-aller. Ils avaient à laisser aller dans l'étude de la Torah. Et les sages disent que Amalek est venu, ils se sont posé la question, est-ce que Dieu est dans notre sein ou non ? Alors le Zohar dit qu'ils se sont posé la question, regardez, le verset 7, ils ont éprouvé Dieu en disant « Ayesh Hashem ekirbenu imain ». Le Zohar donne l'explication suivante. Ayesh Hashem bekirbenu imain. Est-ce qu'il y a Hashem dans notre sein ou est-ce qu'il n'y a pas ? C'est-à-dire, le Zohar dit, ils se sont posé la question, quand on sert Dieu, est-ce qu'il faut être Yesh ou est-ce qu'il faut être Aïn ? Quand on sert Dieu, est-ce qu'il faut s'oublier, être comme rien, ou il faut exister dans le service de Dieu ? Quand on sert Dieu, est-ce qu'il faut s'annihiler, son moi, ou au contraire, c'est une gloire de Dieu d'être présent dans le service de Dieu ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Les deux.
Comment ?
Les deux.
Ah voilà, c'est ça, c'est les deux. C'était ça la question. Se poser la question, c'est résoudre la question, dire, voilà, est-ce qu'il faut être annihiler son moi pour service Dieu ? Ou non, au contraire, il faut être présent. Cette question, ça montre qu'on ne vit pas la Torah. Il ne vivait pas la Torah. En vérité, la Torah, les deux sont vrais. C'est quand tu vis la Torah, comme on dit en yiddish, quand tu es dans le brent de l'étude de la Torah, yiddish, c'est bon ? Je vois que c'est bon. Oui. Non, ça veut dire, c'est un mot en allemand. Brennen.
Le feu.
Le feu, hein, quand on est dans le feu, quand on a le feu de la vie de Torah, en vérité, cette question ne se pose pas. On vit la chose. On se pose cette question quand on n'est pas dans le vécu. C'est une question. C'est déjà qu'on n'est plus dans, on n'est plus dans le feu du truc. Et justement de se poser la question, est-ce qu'on vit est-ce que Ayesh Hashem, est-ce que Dieu existe ou il n'est pas ? Est-ce que nous on existe ou on n'existe pas ? Est-ce qu'on doit. C'est un problème qu'on a une distance, on ne vit pas la chose. Parce qu'en vérité, les deux sont vrais, comme va dire Rivka. Les deux sont vrais. Ils étaient dans un relâchement dans la vie, peut-être que ce relâchement est compréhensible. Ils étaient dans le désert. Je ne sais pas, nous, on n'a pas vécu des jours dans le désert, même s'il y a des miracles. Vous me dites qu'il y a des miracles, il y a la manne, etc. Mais des fois, on a besoin peut-être, d'aller à Auchan faire des courses. Je sais pas, c'est sympa. Moi, j'aime bien aller faire des courses à Auchan. Tout le temps, on t'amène à domicile tout ce que tu as envie. J'aimerais aller faire les courses. Non, tu as la meuble qui arrive devant chez toi. C'est... Peut-être c'est un peu épuisant à force.
S'il vous plaît, il serait intéressant de situer dans le temps combien de temps après les 10 plaies c'est intervenu cette situation et après combien de temps ils ont traversé la mer Rouge ? Combien de temps c'est arrivé après ?
C'est quelques jours après.
Quelques jours
seulement. Quelques jours après.
Donc ouais. Malgré le grand dévoilement d'Akadosh Baruch
Hu. Ah oui, absolument, quelques jours après.
Quelques jours après.
Ah oui, c'est dur, hein. Ils sont juste dans le coup, quelques jours avant, c'était la traversée de la mer Rouge. Bon, mais peut-être c'est fatigant. Ils ont bien chanté, là, après, ils ont un petit burn-out, quoi. Mais cette question, le Zohar dit, justement, et c'est lorsque il n'y a plus cette énergie, il n'y a plus d'énergie dans la vie de la Torah, que... qu'arrive Amalek. On se pose des questions plutôt qui n'en sont pas, en vérité.
Peut-être aussi ce manque d'énergie est venu du fait que aussi ils n'avaient même pas besoin de le demander, ça coulait tout seul, ça tombait tout seul. Donc ils se retournaient même pas besoin de se retourner vers Dieu, on va dire. Et alors le jour où ça tombe plus, c'est là qu'on s'inquiète, on dit là il est parti. Donc finalement c'est une réaction, j'ai envie de dire, normale.
Oui, alors ce que les commentateurs disent, normal, c'est ils peuvent aller voir Moshé. Moshé, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe?
Oui, là,
Moshé, dis-moi, tu commences à nous saouler. Ouais, donc, comment dire, je vais lui chercher des noises.
C'est disproportionné, mais ça veut dire le fait de, déjà de craindre que peut-être Dieu n'est plus là, ça, cette crainte, elle peut être légitime. Maintenant, bon, la manière dont ils sont allés voir Moshé, non. Ce doute, oui. Subitement, pourquoi il n'y a plus rien maintenant, c'est légitime, c'est d'un jour à l'autre, il n'y a plus rien.
Il n'y a pas de doute.
Oui, mais quand ils ont vécu tout ce qu'ils ont vécu, pourquoi ça, c'est vrai, ça s'arrête, c'est un fait, il n'y a pas d'eau. Mais demander à Moshé, sois sympa, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe. On tourne le robinet, il n'y a plus d'eau. Hein, il y a les enfants, il y a les papis, tout ça. On aimerait quand même trouver une solution. Bon, mais alors, commencer à lui dire, dis-moi Moshé, tu commences à nous saouler avec tes histoires, ça c'est encore. Qu'il y a un problème objectif, il y a un problème. Mais on voit bien que Dieu a répondu. Donc ça veut dire que c'était légitime. Il les a un peu fait poireauter qu'ils ont eu soif. Ils ont eu soif. Mais. Et donc ça veut dire que c'était légitime, mais le fait de se disputer, de dire Dieu peut-être n'est plus là, là, ça c'est fort, oui.
Non, ça me fait penser à une chose que vous avez dit à un autre cours des mardis. Non, c'est comme ça, en réfléchissant, ça fait un peu penser, vous dites, c'était une question que n'avait pas vraiment, ça n'aurait pas dû être une question s'il vivait vraiment la Torah. Donc c'est un peu comme pour dire, bon, alors, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes, il envoie quelque chose d'effort, comme ça, pour dire, comme ça vous ne vous posez plus des questions, vous êtes dans le feu des choses, et après vous allez revoir la situation différemment. Et vous aviez dit c'était ça par rapport, je me rappelle plus, c'était, on parlait du néant, de que parfois, si on étudie tout le temps sur la même chose, on n'arrive pas à avancer. Alors que, voilà, c'est en sortant, c'était par rapport au
Rambam me dit qu'il fallait des fois aller se promener.
Que changer complètement des paysages, ça fait repenser à ce qu'on a vécu avant et le revoir de façon différente. Donc peut-être que l'arrivée d'Amalek, ça met dans une situation complètement différente, que ça prend des énergies sur d'autres choses et qu'après, ils vont réfléchir différemment à cette question qui s'est posée.
Oui, mais Amalek est quand même cherche à tuer, c'est ça le problème. C'est qu'à aller se promener. On change de cadre, des fois c'est nécessaire, mais là, Amalek, c'est comme on a dit, le grand méchant, il tue. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets, il s'attaque vraiment à Israël.
Excusez-moi, sur la succession des événements, il demande de l'eau, Moïse frappe le rocher, il en jaillit de l'eau, le peuple boit, et c'est seulement après qu'Israël se demande, nous verrons si l'Éternel est avec nous.
Non, c'est Amalek arrive sur le fait qu'il, en punition du fait que avant d'avoir l'eau, ils se sont demandé est-ce que Dieu est là.
Avant d'avoir l'eau,
c'est ça. Avant d'avoir l'eau.
S'il vous plaît, est-ce que cette manière forte et sèche et abrupte de demander l'eau à Moshé, à la limite de l'insolence, etc., est-ce que c'est lié directement et intrinsèquement au fait qu'ils se sont asséchés de la Torah, ils étaient vides de Torah. Si c'était resté attaché à Dieu, ils auraient demandé d'une autre manière, plus diplomatique, avec des prières, etc. D'une autre manière.
Une autre manière. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'étude de la Torah, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir, toute cette histoire, avec l'étude de la Torah? On peut expliquer que quand on n'étudie pas la Torah, je prends un exemple. Plusieurs d'entre vous étaient là au cours mardi soir. On a vu des choses sur la cacheroute des médicaments. Alors, avant que je vienne ici, j'ai fait quelque chose, peut-être que ça va vous choquer. J'ai acheté Actualité juive. Et alors, avant que je vienne, Tim, mon épouse, a feuilleté. Et il y a quelqu'un, il y a un courrier des lecteurs sur le miel. Et un courrier des lecteurs qui dit qu'il a parlé à un apiculteur très professionnel et qui lui a dit, mais vous savez, dans le miel, il y a des abeilles qui ont fondu dans le miel, etc. Donc vous qui vous préoccupez de cacheroute, sachez que c'est pas si cachère que ça. Faites-le savoir. Il y a un article là-dessus. C'est intéressant. Nous, on a un petit peu étudié le sujet mardi soir dernier, comme quoi il n'y a strictement aucun problème. Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand on n'étudie pas, on prend les choses comme des choses qui nous tombent dessus. C'est les lois de la Torah, les commandements de la Torah, mais en vérité, la vie elle-même. Par le biais de l'étude, pas seulement l'étude comme ça, mais l'étude approfondie, on réalise que les choses correspondent à quelque chose, que ce n'est pas n'importe comment, n'importe quoi qui nous tombe dessus et que tu es esclave finalement. C'est vrai que nous on fait ce que Dieu nous demande, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Mais concomitamment à ça, il y a les deux, à la fois. On n'existe pas, et à la fois on existe, si vous voulez, c'est ce qu'on voit. À la fois on se soumet, et à la fois on existe dans la Torah. Mais les choses tiennent. Quand tu étudies, tu vois que les commandements de Dieu correspondent à quelque chose. Ce n'est pas des tabous, ce n'est pas des trucs qui n'ont pas de sens. C'est des choses qui sont visées précisément. Il y a des choses précises qui sont visées, ce n'est pas tout et n'importe quoi. Il y a au cours, là, l'autre jour, c'était très intéressant, un garçon tout à fait intelligent et tout à fait bien, il croyait que c'était interdit de toucher un petit cochon. Je veux dire, la Torah ne parle pas de ça, c'est pas ça qui est visé du tout. C'est pas parce que c'est un cochon que c'est tabou. Il y a quelque chose de précis qui est visé. Les choses, c'est pas tout n'importe quoi. Mais quand tu n'étudies pas vraiment la Torah, que tu n'es pas vraiment dans le chaud, dans la chaleur du truc que tu vis la chose, pas seulement tu la vis émotionnellement, mais les deux, et intellectuellement et émotionnellement, les deux en même temps, alors les choses ont un sens, ça a une place. Mais quand c'est pas comme ça, ça tombe dessus. C'est arbitraire, mais c'est pas seulement la Torah est arbitraire, même la vie, elle est arbitraire. Même l'ensemble de la vie est arbitraire. Donc c'est pour ça que les sages disent, ils font ce jeu de mots que comment ça arrive ici? Ça arrive par le fait que, à la limite, ils étudiaient, mais ils n'étudiaient pas avec énergie et intellectuelle et physique. D'ailleurs, c'est pour ça, les hommes, quand ils étudient la Torah, ils étudient la Torah en chantant. On chante quand on étudie la Torah. La Torah doit être exprimée. Et ça, je fais une petite campagne, c'est mon petit délire, à la noix de coco, mais j'en fais pas plus que ça. Mais on a eu un débat à Shavuot, j'ai fait un cours à Shavuot à côté de chez moi, et je disais que suivre une conférence de Torah, par exemple, sur Internet, c'est pas l'étude de la Torah. Moi, genre, oh ouais, mais c'est quand même bien, voilà. Mais parce que c'est passif. Parce que c'est passif. Tu suis, t'es passif. Être passif, c'est comme je leur ai dit, c'est peut-être mieux que regarder des saletés sur Internet. Mais à part ça, c'est pas l'étude de la Torah. Tu apprends des choses, mais apprendre des choses, c'est pas la Torah. La Torah, c'est que tu te mets là-dedans. Et tu te mets et intellectuellement, et physiquement, et émotionnellement. Il y a une unité entre tout ça. Et lorsqu'il n'y a pas ça, tu es à côté de tes pompes. Tu es à côté de tes pompes. C'est dur, comme on dit. C'est dur d'être un juif. Ouais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est comme on dit. C'est. Shvert Souza Ayid, c'est dur d'être un juif. Mais c'est vrai, c'est très exigeant d'être juif. C'est très exigeant. Mais c'est ça qui nous donne de l'existence, ça qui nous donne de la vie. Et là arrive la personne qui met le peuple qui s'est mis comme vocation de pointer l'absurde de l'existence. De pointer la vie est absurde. Voilà. La vie est absurde. Et c'est considéré que Amalek, certes, Dieu vient nous punir par ça, mais Amalek a aussi sa responsabilité par rapport à ça. Alors, on va voir un peu, quelques versets. Verset 8, « Vayamo Amalek, veilachem im Israël birfidim. » Amalek est arrivé, a fait la guerre contre Israël, au lieu dit Rephidim. « Vayomer Moshe et Yoshua, Bechar lanu anashim vetse ilachem b'amalek, machar anochi nitzav al rosh agiva, umate a Elohim beyadi. » Moshe dit à Josué, choisis pour nous des hommes, va faire la guerre contre Amalek. Demain, je vais me mettre debout en haut de la colline avec le bâton divin dans ma main. Vaya si Yoshua kasher amarlo Moshe lelachem b'amalek, ou Moshe Aaron vechur alu rosh agiva. Yoshua fait comme Moshe lui a dit, de faire la guerre contre Amalek. Moshe, Aaron et Hur. Hur, c'est qui Hur? Fils de Myriam. Oui. Fils de Myriam. Alors, comment? Non, mais c'est ce que j'ai dit, je suis désolé. J'avais tout un matos et j'ai oublié avant de venir. Je vous le garde au frigo. Alors, Vayas Yoshua fait comme Moshe a dit, de faire la guerre, et Moshe, Aaron et Hur sont montés en haut de la colline. Vayas Kacher Yari Moshe Yado, Vegavar Israël, Vekacher Yania Yado, Vegavar Amalek. C'était quand Moshe levait ses mains, Israël gagnait. Et quand il posait ses mains, c'est-à-dire il levait ses bras vers en haut, et parfois il n'avait plus la force, quand il levait les bras vers en haut, c'est-à-dire pour montrer que c'est par notre lien avec Akadosh Baruch Hu qu'on peut s'en sortir, alors Israël gagnait, avec dessus. Et quand il posait sa main, c'est Amalek qui avait le dessus. Védé Moshe que Védim. Les mains de Moshe étaient lourdes. Veikrou et Ven, ils ont mis des pierres. Vayasimu Tarta, ils ont mis en dessous. Vayeshev Alea, c'est assis dessus. Va Aaron Vechur Tamrou Beyada Mise Echa Mise Echa Viye Yadav Emuna Adbo Hashamesh. Les mains de Moshe étaient lourdes, ils ont mis une pierre, ils ont mis en dessous, il s'est assis dessus. Aaron et Hur soutenaient ses bras, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Les bras de Moshe étaient pleins de confiance jusque au coucher du jour, du soleil. Vayachalosh Yoshua et Amalek, Vetamo le fit Charev. Essayons de traduire Vayachalosh Yoshua et Amalek.
Il a faibli.
Affaibli. Chalash, c'est faible. Il a affaibli Yoshua, Josué a affaibli Amalek, ainsi que son peuple, au fil de l'épée. Alors regardez, c'est intéressant parce que la traduction en face, en français, n'est n'est franchement pas exact. Le verset 13, Josué triompha d'Amalek et de son peuple. Or, la traduction, c'est l'a affaibli. Pourquoi il a affaibli et il n'a pas vaincu? Il a affaibli, mais pas vaincu Amalek. Pourquoi cette histoire? Alors justement, parce que ce n'était encore pas donné de donner le coup final à Amalek. Si c'eût été, à son accent circonflexé, le coup final contre Amalek, ça aurait été les temps messianiques. C'est la guerre contre Amalek, c'est le moment, c'est la lutte finale. C'est la lutte finale, ouais. C'est la lutte finale.
Donc, Amalek, il faut toujours se battre contre lui.
Voilà, mais c'est la lutte finale. Donc c'est-à-dire que Yoshua a affaibli Amalek de manière à ce qu'Amalek laisse les enfants d'Israël, mais sciemment n'a pas donné ce qu'on appelle l'estocade à Amalek, parce que il n'y aurait pas eu la rentrée, enfin, il n'y aurait pas eu la suite. Ça aurait été la fin de l'histoire. Amalek, la lutte contre Amalek, c'est le fin mot. C'est le fin mot. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Où est le fin mot? Qu'est-ce qu'a le fin mot dans Amalek? Pourquoi c'est tellement fondamental, cette bagarre entre Amalek? Terminons les versets 14, 15, 16. Vayomer Hashem el Moshe, que tov zot zikaron basefer, vesim beozne Yoshua, ki maro emche et zecher Amalek mitachat Hashamayim. Hashem dit à Moïse, écris cela en souvenir dans un livre, mets aux oreilles de Yoshua, c'est-à-dire, mets bien dans les oreilles de Yoshua, de Josué, la chose suivante, la promesse suivante, qui maro emre et zerer Amalek mitarat Hashamayim, effacer, j'effacerai le souvenir d'Amalek dessous les cieux. C'est-à-dire, il ne restera rien d'Amalek. Dieu dit, j'effacerai tout souvenir d'Amalek. Alors ici, c'est quand même paradoxal, regardez, c'est plein de paradoxes, puisqu'il est écrit dans un livre ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier, c'est le commandement, souviens-toi de ce qu'a fait Amalek. D'un côté, il faut se souvenir, et d'un autre côté, il faut effacer le souvenir. Alors ça, c'est quand même... comment? Ou alors, comme on dirait ici dans le quartier latin, paradoxal, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce verset est absolument fondamental. Comment?
Non, pardon, mais quand il écrit ça, oui. Là, c'est quoi? C'est-à-dire le fait, peut-être, que quand Moshe se retourne vers Hachem, ça marche, et quand, les bras baissent, la guerre ne marche pas. Donc, écrit ça, ça, c'est peut-être voilà, les circonstances qui ont fait.
C'est-à-dire tout, pas seulement la guerre d'Amalek, mais on pourrait dire, entre guillemets, la morale à tirer de là. Alors, ce verset a une incidence très importante. Que tav zot zikaron basefer, que lorsque il y a eu l'histoire de Pourim, Aman, descendant d'Amalek, et Aman a voulu exterminer le peuple juif. Ok, bien. Lorsque tout s'est transformé pour le bien, Esther a demandé aux sages de l'époque, qui de vous nie la Dorote? Écrivez ce qui vient de se passer pour les générations. Et les sages, ils ont dit non. Parce que c'est écrit Ktav. Ktav, Zot Zikaron Basefer. Il faut parler d'Amalek mais pas plus que trois fois. Il faut parler, c'est-à-dire, on pourrait dire, il faut parler, si je peux me permettre, de l'antisémitisme, mais pas trop. Trois fois. Or, dans le Tanakh, c'était déjà écrit trois fois. C'est écrit deux fois dans le livre de la Torah, et une fois dans l'histoire de Shaoul que nous commençons à voir. Donc trois fois c'est écrit. Zot, Zikaron, ben c'est fait trois fois. Trois fois, pas quatre fois, ça suffit. Comment?
La Megillah, elle a été écrite.
Alors, Esther ne s'est pas démontée.
C'est la dernière chose qu'on continuera à
faire. C'est le livre d'Esther. Elle a dit, oui, mais vous ne savez pas lire le verset. Elle a dit aux sages, Sétri, Ktav Zot, c'est dans le Chumash, Zikaron, c'est dans les prophètes, mais dans les hagiographes, il n'y a rien, ça sera mon histoire. Elle dit, c'est pas le nombre stricto sensu, c'est les catégories. Donc, c'est vrai, c'est deux passages dans la Torah, mais c'est une seule catégorie. Donc, Zot, c'est Chumash, Zikaron, c'est les prophètes, c'est ce que nous commençons à faire, et Zikaron, Zot, Zikaron, Bassefer, c'est les hagiographes, c'est le livre d'Esther. Et donc, elle a eu qu'une cause. Mais elle s'est bien bagarrée. Elle avait, au départ, ce n'était pas gagné. Donc on voit que quand on veut, comment dire, quand on veut, on peut. Non, ça veut dire elle a compris que l'histoire d'Esther était une dimension spécifique et que les sages passaient à côté. Elle leur a fait comprendre qu'il y avait une dimension nouvelle qui s'appelle Bassefer. Mais on voit d'ici, en tout cas, que si tant est qu'on doit rapporter qu'est-ce qu'a fait Amalek, il ne faut pas rapporter trop. Il ne faut pas rapporter trop. C'est important, je dirais, dans la vie juive, mais ce n'est pas la base de la vie juive. Il y en a qui en font tout un gratin de l'antisémitisme. Un gosse qui dit, mais dans les journaux juifs, ils ne parlent que d'antisémitisme. Il dit, mais oui, sinon tu n'aurais pas de journaux juifs. Ouais. Mais il y a beaucoup d'autres choses que ça. Plein. Un peu, ça va, mais pas plus. C'est pour ça que c'est écrit Zod Zikaron Bassefer. Alors, terminons les versets. Vayivel Moshe Misbehar, Vayikra Shemo Hashem Nissi. Moshe a construit un autel. Quand c'est arrivé, il a construit un autel, il a crié, il a appelé le nom de cet autel, l'Éternel. Alors, il dit, Dieu est ma bannière, on va dire, Dieu est ce qui m'élève, qui me initie, c'est aussi la dimension de miracle. Finalement, ils se sont sortis miraculeusement, finalement, de cette histoire. Donc, Moshe Rabbeinu a fait un autel de reconnaissance à Dieu de cette sortie, de cette mauvaise passe. Vayomer, il a dit, Kiyad akeska milchama l'Hashem b'Amalek midor dor. Il a dit, la main est sur le trône de Dieu. C'est Amalek, en vérité, porte la main sur le trône de Dieu. C'est une guerre pour Dieu contre Amalek de génération en génération. Alors, à la fin de Parashat Kitetsé, regardez, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Regardez Parashat Kitetsé. Page 331.
331.
Chapitre 25, verset 19. Verset 19. Ve'aya be'aniyar Hashem Elokecha lecha mikol oyvecha misaviv ba'aretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala lerishtat timche et zecher Amalek mitarat ha'shamayim lo tishkach. Ce sera lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis autour de la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras le souvenir d'Amalek de sous les cieux. N'oublie pas. Et là, maintenant qu'on a vu un peu tous ces versets, on comprend qu'est-ce qui se passe dans le livre de Shmuel. Parce que nous venons de voir, au début de notre étude ce soir, que Shaoul a fait la guerre sur tous les ennemis. Et il a pacifié, il a terrorisé tous les ennemis, il a fait que Israël était tranquille de tous ses oppresseurs. Arrive le prophète, ok, c'est le moment. C'est ce que la Torah dit ici. Maintenant, on s'occupe d'Amalek. Une fois qu'on aura réglé, on construira le temple et ça sera le temps messianique. Suspense. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Lui, il a dit ça marchait. Le prophète va dire ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Et aussi, ce qu'il faut comprendre, je pense que nous verrons ça, en quoi vraiment cette histoire d'Amalek est liée à, on pourrait dire, au dernier combat. Quoi. C'est le dernier combat. Qu'est-ce qu'il y a de tellement central dans cette histoire d'Amalek? On essaiera de mettre ça au clair. Hein.
Excusez-moi, comme là, on aurait pu exterminer Amalek, mais on va décider de ne pas le faire. Peut-être que Shaoul s'est dit, non, justement, les temps messianiques ne doivent pas encore
c'est arriver. Vrai. C'est vrai, ouais. Mais on voit manifestement que le prophète Shmuel a pensé que oui. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire, attention, maintenant, hein, le verset que nous avons vu, il dit, maintenant, écoute la voix. Maintenant.
Et là, Dieu n'a pas dit, Hachem n'a pas dit à Yahushua exterminer.
Il n'a pas dit.
Alors qu'après, il l'a dit.
Là, Shmuel va le dire à.
En fait, c'est un excès de. Ah, qu'il a eu, non ? C'est-à-dire, autant il était très humble, et puis là, d'un coup, il se dit, non, mais.
Alors, regardez, ce que je préfère, c'est voir vraiment du cœur des versets. Cœur des versets. Comment ça sort ? Comment toute l'histoire sort des versets. Hein ? Ok ? Merci.
Ce que vous ferez la semaine prochaine pour qu'on puisse.
Eh bien, oui. La semaine prochaine, une seconde. Eh bien, le chapitre 15. Voilà. Le début du chapitre 15.
Merci. Oui.